Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le mardi 22 mars 2022. Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous accompagner au cours de ce programme en français sur Radio SBS aujourd'hui. Au programme, nous parlerons de sport, nous aurons un petit détour par la campagne présidentielle, la campagne électorale en France avec notre Zap France habituel du mardi. Nous parlerons de mode sur mesure à Sydney. Mais tout de suite, on va passer au journal, un journal présenté par Marianne. Donc bonjour Marianne.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 22 mars 2022, le crash d'un avion dans le sud-ouest de la Chine. 132 personnes étaient à bord. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. 27e jour de la guerre en Ukraine et au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial dans la capitale, Kiev. La Russie affirme avoir attaqué ce bâtiment juste parce qu'il contenait des armes ukrainiennes et ne pas avoir voulu toucher de civils. En marge de cette guerre, l'Union européenne adopte sa nouvelle ligne de défense, plus de moyens, plus d'interventions et surtout plus de sanctions à l'égard de la Russie. En France, le décès d'Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a succombé après 3 semaines de coma à cause d'une agression en prison. Et enfin du sport, du tennis, avec la victoire de l'Américain Taylor Fritz en finale de l'Indian Wells contre Rafael Nadal. On en parle dans le journal des sports que vous avez préparé, Christophe.
Tout à fait. Et on ouvre ce journal avec le crash impressionnant hier soir d'un avion en Chine.
Oui, un Boeing 737 de la compagnie China Eastern Airlines s'est écrasé dans le sud-ouest du pays, on le disait en titre. Il était parti de la ville de Kunming et devait atterrir 1300 km plus loin à Canton. Mais l'avion a rapidement perdu de l'altitude à 26 000 pieds en seulement 3 minutes. C'est une chute de près de 8 km avant de disparaître totalement des écrans radars. À son bord, 132 personnes, 123 passagers et 9 membres d'équipage. Il y a très peu de chances de trouver des survivants, si ce n'est aucune. Mais le bilan officiel n'a pas encore été annoncé et les recherches sur place se poursuivent.
So far, a rescue team of 120 vehicles and 622 members have arrived at the accident site. The site is ringed on 3 sides by mountains without access to power supply, so the lighting conditions are very poor. The search and rescue work are now in full swing.
Et dans le même temps, les familles de passagers se sont rendues à l'aéroport dans l'attente d'informations, de comprendre ce qu'il s'est passé, sans pour autant garder espoir.
His relatives had very mixed feelings when I broke the news and they were sobbing. His mother didn't believe this had happened. After I confirmed the news to her, she was sobbing. Then she said she will be here as soon as possible because she was very sad. Her boy was only 29 years old.
Voilà donc ce que vous pouvez dire sur ce crash. D'ailleurs, cet accident, une fois que le bilan sera confirmé, pourrait être le plus meurtrier en Chine depuis 1994, où 160 personnes étaient décédées dans le crash d'un Tupolev 154 de la compagnie China Northwest Airlines. Ce mardi 22 février marque le 27e jour de la guerre en Ukraine et les frappes continuent, notamment dans la capitale Kiev.
Au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial, une attaque justifiée par la Russie qui assure que le bâtiment était utilisé par l'armée ukrainienne pour stocker des armes.
На видеокадрах объективного контроля хорошо видно.
Live monitoring footage clearly shows a Ukrainian multiple rocket launcher driving into a shopping center on the outskirts of Kyiv for cover, after another salvo and for reloading of missiles. On the night of March 21, a battery of Ukrainian multiple rocket launchers and a storage base for their munition in an idle shopping center were destroyed by high-precision, long-range weapons.
Et c'était les propos traduits donc de Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe. Une attaque qui n'est pas sans conséquences, Marianne.
La capitale résiste tant bien que mal aux attaques répétées. Elle a de nouveau été placée sous couvre-feu, au moins jusqu'à demain, et ce, depuis hier. Le maire de la ville demande aux habitants de porter des masques pour se protéger des fumées et ne pas ouvrir les fenêtres. Kyiv n'est pas la seule ville à être visée de plus belle. Kharkiv, Mariupol, Odessa, Mykolaiv. D'après les autorités ukrainiennes, 1300 soldats auraient été tués côté ukrainien contre 15 000 côté russe, des chiffres qui sont bien sûr pour l'heure impossibles à vérifier. Et en reprenant la sémantique du président américain Joe Biden, eh bien l'Union européenne a qualifié la dévastation de la ville assiégée de Mariupol de, je cite, « crime de guerre majeur ». 350 000 habitants restent toujours bloqués dans les ruines, des ruines jonchées de cadavres. Ils n'ont peu, voire pas de nourriture, d'eau, d'électricité. Et pour ces personnes, il est quasiment impossible de fuir puisque si elles partent, le risque serait trop grand de se faire toucher par une frappe. Dans les autres villes, beaucoup, eux, ont réussi à partir. L'Organisation des Nations Unies parle de 10 millions de réfugiés.
Since February 24th, more than 10 million people have now been forced from their homes in search of safety and security, nearly a quarter of the population of Ukraine. This includes an estimated 6.5 million men, women and children who are internally displaced, and that's according to our friends at the International Organization for Migration, and nearly 3.5 million people, mostly women and children, who have crossed international borders out of Ukraine as refugees.
Et c'était Stéphane Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le conflit en Ukraine, c'est aussi la guerre de l'information en Russie.
Facebook et Instagram viennent d'être officiellement interdits dans le pays. Une décision prise par la justice, puisque c'est un tribunal de Moscou qui a estimé que ces deux géants des réseaux sociaux menaient des activités extrémistes. On leur reproche d'avoir assoupli leurs règles pour permettre la diffusion de messages violents contre l'armée et contre les dirigeants russes. Les explications de la correspondante à Moscou pour Radio France Internationale, Anissa El-Jabri.
Comme les médias indépendants et comme Twitter, les deux réseaux sociaux étaient déjà bloqués depuis le début du mois. Seuls les titulaires d'un VPN pouvaient y accéder. À la mi-mars, le téléchargement de ces outils a d'ailleurs explosé en Russie, plus 2500%. Précision du parquet, dans la foulée de la décision, les titulaires de comptes Facebook et Instagram, particulièrement populaires en Russie, pourront d'ailleurs continuer à y poster des messages, cela sans être poursuivi pour extrémisme. Le vrai changement, et il est majeur, c'est qu'il ne sera plus possible d'acheter de la publicité. Méthode de rémunération pour les influenceurs ou manière de se faire connaître pour les petits entrepreneurs ou les artistes, l'argent dépensé pour être vu sur ces plateformes sera, avec cette décision, considéré comme du financement de l'extrémisme.
Et c'était Anissa El-Jabri pour RFI. Alors on en parlait juste avant, des 10 millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine, et tout en moins d'un mois. En Australie, ce sont 5000 visas qui ont été accordés, certains en moins de 24 heures.
Des visas qui vont permettre aux Ukrainiens venant en Australie de rester jusqu'à 3 ans sur le territoire, de travailler, d'étudier, d'avoir accès à Medicare, la sécurité sociale australienne. Le gouvernement fédéral a aussi annoncé le déblocage de 30 millions de dollars supplémentaires en aide humanitaire et 21 millions en aide militaire. Des aides et des visas qui font tiquer les défenseurs des droits de l'homme. Bien sûr, c'est une bonne chose, hein, explique Paul Power, le directeur général du Conseil des réfugiés. Mais il faudrait apporter la même réponse rapide et efficace à tous les réfugiés, quelle que soit la crise humanitaire qu'ils fuient.
Because the overall refugee and humanitarian program has been cut substantially, and the 28,000 previously budgeted places have been lost in less than 2 years. It means that it's much less possible for refugees from other parts of the world.
Et c'était donc Paul Power, le directeur général du Conseil des réfugiés. Alors, 2 ans de débats et de travaux, largement d'ailleurs accélérés par la guerre en Ukraine, l'Union européenne vient d'adopter sa nouvelle ligne de défense.
Les 27 ont établi la colonne vertébrale de la défense européenne, la boussole stratégique, comme ils l'appellent. C'est en fait une orientation sur plusieurs années que les Européens veulent mettre en commun pour leur défense. Vous l'avez dit, ça va faire 2 ans que les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne travaillent dessus. Objectif, renforcer la défense, se donner plus de moyens d'intervention et, au vu de la crise actuelle, augmenter les sanctions contre la Russie. Pierre Benazé pour RFI.
Cette boussole stratégique, c'est l'orientation sur plusieurs années de ce que les Européens veulent mettre en commun pour leur défense. Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, évoque un moment quasiment historique avec l'adoption de ce qu'il appelle un guide pour l'action. La mesure la plus tangible est la mise en place d'une force de déploiement rapide de 5000 hommes et à plus long terme, un engagement des 27 à atteindre des dépenses militaires de 2% du produit intérieur brut. Elles sont aujourd'hui à 1,5%, ce qui représente 200 millions d'euros, 4 fois le budget militaire de la Russie, mais moins efficace, selon Josep Borrell. Le chef de la diplomatie européenne souligne que la guerre en Ukraine a provoqué un changement tectonique de l'architecture de la sécurité européenne. Et même si cette boussole stratégique n'est pas qu'une réaction à l'invasion russe, elle s'étend longuement sur la posture de défense de l'Union européenne face à la Russie. Les Européens ont aussi préparé de nouvelles sanctions. Elles seront décidées lors du sommet de jeudi, car la question de l'embargo pétrolier n'est pas résolue. Ils ont aussi doublé les budgets qui permettront d'acheter des armes pour l'Ukraine. Désormais, 1 milliard d'euros.
Et c'était Pierre Benazé pour RFI. Il est 13h11, retour en Australie maintenant et on parle de politique avec un nouveau premier pour le South Australia, Marianne.
Le travailliste Peter Malinauskas prend la tête de l'Australie méridionale en français après avoir battu le libéral Stephen Marshall. Stephen Marshall qui est resté 9 ans à la tête de l'État. Le nouveau premier entend directement s'attaquer à la gestion de la crise sanitaire. Pour lui, la lutte contre le Covid a été chaotique, trop irrégulière avec des incohérences, notamment en ce qui concerne la définition des cas contact, le port du masque, les QR codes. Tout ça, c'était trop différent par rapport aux autres États et territoires australiens, c'est ce qu'il dit. Il aspire à plus de cohérence. On l'écoute.
Look, I'm a new leader. I have an opportunity as the Premier now to fully examine all of the reasons why the policy settings are what they are. If there are good reasons for that, that's fine, but people of our state deserve to know. A sense within the community at the moment and a consciousness of the fact that we are different to other states and they need to know why, and I want to communicate that to them as effectively as possible if indeed there is a necessity for its maintenance.
Peter Malinauskas qui vient d'ailleurs déjà d'annoncer de nouveaux changements.
There will be a change to policy and process in respect to COVID management in the state of South Australia under my leadership. I can announce today that the COVID Ready Committee is being abandoned and it is being replaced with a subcommittee of Cabinet. That subcommittee is the Emergency Management Council.
Et c'était donc Peter Malinauskas, le nouveau premier de l'Australie méridionale. Vous avez raison, Marianne, il faut le dire en français. Allez, politique australienne maintenant, et toujours d'ailleurs, et Scott Morrison qui va annoncer un investissement de 60 millions de dollars dans le tourisme.
Le Premier ministre commence à détailler les grandes lignes du budget fédéral et sur ces 60 millions, 45 vont être distribués sur 2 ans afin d'aider les régions impactées par le Covid et le manque de touristes depuis début 2020. L'accent va être mis sur le Queensland avec la Gold Coast, la Sunshine Coast, les Whitsundays, mais aussi sur la Nouvelle-Galles du Sud, la région du Hunter et la Great Ocean Road dans le Victoria.
Et les 15 millions de dollars restants vont spécifiquement être dépensés pour promouvoir la Grande Barrière de Corail dans le Queensland.
La Grande Barrière de Corail hein, qui d'ailleurs est touchée à 98% par le blanchissement, on le sait, on le répète. Et pourtant, l'Australie est encore pointée du doigt par les Nations Unies en termes de réchauffement climatique en étant qualifiée, je cite, de récalcitrante. Le secrétaire général Antonio Guterres reproche à Scott Morrison de ne pas renforcer son objectif de réduction des émissions d'ici à 2030.
Allez, pour terminer le journal, on prend la direction de la France où Yvan Colonna est décédé 3 semaines après son agression en prison.
Yvan Colonna ne s'est pas réveillé de son coma dans lequel il était plongé depuis le 2 mars. Condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, c'était en 1998. Il est mort à l'âge de 61 ans. Retour sur les faits avec Jeanne Richard pour RFI.
Ivan Colonna était dans le coma depuis le 2 mars. Ce jour-là, dans la prison d'Arles, un autre détenu présenté comme djihadiste avait tenté de l'étrangler, de l'étouffer. Le militant corse de 61 ans avait été rapidement conduit à l'hôpital. Il n'a finalement pas survécu à ses blessures. Le berger de Cargèse, comme l'avaient surnommé les médias d'après le nom du village corse où il s'était installé, était une figure de la mouvance indépendantiste de l'île, connue pour avoir participé à l'assassinat du préfet Claude Erignac en février 1998 à Ajaccio et ses 4 ans de cavale avant son arrestation et sa condamnation après 3 procès à la prison à perpétuité. Il y a 3 semaines, son agression a provoqué une explosion de colère avec des manifestations parfois violentes à travers toute la Corse. Le calme est revenu la semaine dernière après une visite de 3 jours du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a promis d'ouvrir des discussions qui pourraient mener à l'autonomie de l'île.
Et c'était Jeanne Richard pour RFI. Voilà pour l'actualité de ce jeudi 22 mars. Un point sur la météo, Marianne.
Il fait grand soleil et 28 degrés à Perth, 26 à Adélaïde, des averses à Melbourne comptaient 25 degrés, 20 à Hobart, 29 à Canberra, 27 à Sydney. Il fait beau à Brisbane comptait 30 degrés, 31 à Cairns. Et enfin, les températures les plus élevées aujourd'hui, c'est à Darwin, il fait 33 degrés. Le rappel des titres de ce mardi 22 mars, le crash d'un avion dans le sud-ouest de la Chine, 132 personnes étaient à bord, 27e jour de la guerre en Ukraine et au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial dans la capitale Kiev. Et en France, le décès d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a succombé après 3 semaines de coma.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les sports présentés par vous, Christophe, et la finale de l'Indian Wells avec la défaite de Rafael Nadal, ou plutôt, devrais-je dire, la victoire de l'Américain Taylor Fritz. A tout de suite.
Des sports et on commence avec peut-être la surprise de l'année dans le monde du tennis, la victoire de l'Américain Taylor Fritz en finale d'Indian Wells, un tournoi de Masters 1000. Surprise puisqu'il a battu Rafael Nadal en 2-7, 6-3, 7-6. Il est plutôt content l'Américain, on l'écoute, Taylor Fritz.
This is like, I'm gonna have to hold back tears for the next every single interview I do, every single encore speech. This is gonna be tough because I'm such a happy crier, but I mean this is just one of those childhood dreams, like winning this tournament, especially Indian Wells, like this is one of those childhood dreams that you just never even think could come true. So I just keep saying no, just no way, it's real. I mean, I've lost these matches against the big guys my whole life. It's always felt like they're just unbeatable. So to do it on the biggest stage, there's no other way, you know, to win a big title. I feel like you gotta beat the best, and he's unbeaten this year, and obviously I hope he's okay. Obviously there's some stuff going on. I can't imagine how the body's feeling after 20 something matches, but yeah, it's great.
Taylor Fritz donc après sa victoire contre Rafael Nadal. Allez, direction le football et la victoire du Barça contre le Real Madrid 4-0. C'est une victoire surprise, surtout quand on a vu ce que le Real Madrid était capable de faire face au Paris Saint-Germain. Donc, victoire du Barça. On écoute l'entraîneur du Barcelone, Xavi Hernández.
Je suis très fier, très heureux. C'est un très bon jour pour les supporters. C'est le chemin à suivre pour nous. Nous avons été bien meilleurs que le Real dans son stade. Un Real qui est leader. Nous avons démontré qu'on pouvait rivaliser contre tout le monde quand on joue de cette manière. Pour moi, comme entraîneur, ça veut dire beaucoup. Je suis nouveau et cette victoire, ça me renforce. Après, ce sont seulement 3 points. Il faut continuer à travailler avec un maximum d'humilité. Il reste encore beaucoup à faire. Aucun objectif n'a encore été atteint cette saison. Nous devons continuer.
Javi Hernández, donc l'entraîneur du FC Barcelone en football. Et un mot d'athlétisme, c'est les mondiaux qui se déroulent actuellement à Belgrade. Et pluie de record, comme nous l'explique Marie-Amélie Motte.
Oui, à commencer par l'un des plus prestigieux, celui du saut à la perche, 6,20 m franchi par le Suédois Armand Duplantis hier. Et puis en triple saut, la Vénézuélienne Yulima Rojas a amélioré son propre record du monde de 7 cm avec un saut à 15,74 m. Et enfin sur le 60 mètres haies, l'Américain Grant Holloway s'est imposé en 7 secondes 39 centièmes, nouveau record du monde devant le Français Pascal Martino Lagarde. On l'écoute.
Ah, ça fait du bien. Je savais, de toute façon, dès les demi-finales, que la finale allait se jouer au cassé et dans un paquet où c'est celui qui casse le mieux qui passe. Parce qu'on était vraiment, vraiment tous serrés. Je pense que c'est l'expérience qu'a joué. Je sais élever mon jeu tour après tour. C'est-à-dire que les séries, il faut juste passer. Demi-finale, il faut accélérer. Et finale, il faut tout donner. Et c'est pour ça que ça s'accélère de plus en plus. Et j'ai fait la bonne course au bon moment. Donc quand tu mets Grant Holloway dans ma course, bah, je vais me conditionner à répondre présent. Et donc, la bonne course au bon moment qui a donné cette médaille.
Voilà donc pour les mondiaux à Belgrade. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs un événement que vous pouvez suivre à l'antenne de SBS On Demand. Il y a tous les résumés, toutes les épreuves. Tout ça est là pour vous gratuitement, donc sur la plateforme SBS On Demand. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Mon enfant nu sur les galets.
C'était « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai » chanté par Francis Cabrel, une chanson qui parle sûrement à beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, elle me parle énormément. Il est 13h25 sur SBS French et comme chaque mardi, c'est l'heure du zap politique, suivi aujourd'hui de la chanson « Vague à l'âme sœur » chantée par Vanessa Paradis.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et nous revenons à présent sur les temps forts de l'actualité française des derniers jours. Le Zap France, à moins de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, qu'ont dit les candidats? Vous allez entendre la plupart d'entre eux, de Jean-Luc Mélenchon qui prône une 6e République, à Valérie Pécresse qui veut débattre des projets contre projets avec le président candidat Emmanuel Macron, en passant par le chef de l'État lui-même, mais aussi Marine Le Pen, Éric Zemmour, Philippe Poutou, Jean Lassalle et Yannick Jadot. Le Zap France, c'est parti.
Voici venu l'heure de la 6e République. Ce sera le travail d'une assemblée constituante et pas d'un petit comité d'experts qui viendraient vous demander si oui ou non vous êtes d'accord avec leurs trouvailles. Ce sera une assemblée élue par des gens qui n'auront jamais été élus autrement auparavant. Ce sera non seulement l'écriture d'un autre texte, d'une autre règle du jeu, une incitation à se réinvestir dans la vie du pays qui est en train de mourir à petit feu de l'abstention.
Beaucoup de Français sont dégoûtés en réalité par la politique et par ceux qui nous gouvernent, parce qu'on leur a fait beaucoup de promesses, elles n'ont jamais été tenues, parce qu'ils ont voté à droite, puis ils ont voté à gauche, et puis en fait ils se sont rendus compte que c'était exactement la même politique qui était menée. Donc c'est contre cette forme de dégoût que je veux lutter.
C'est cette affiche aussi, hein, Macron-Le Pen, mais... qui ne donne pas envie de voter pour 8 Français sur 10.
Non, je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout à cela. La preuve, c'est que si les gens ne voulaient pas Emmanuel Macron ou Marine Le Pen au second tour, ils ne voteraient pas pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Et donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne seraient pas au second tour.
Œuvrer pour lutter contre la haine, l'antisémitisme, le racisme sur les réseaux sociaux, en France comme en Europe. Ce chemin pour lutter contre la haine, ce chemin de vigilance, d'exigence, c'est celui que nous devons à nos enfants, c'est celui que nous nous devons à nous-mêmes, pour préserver nos libertés face à la barbarie.
Vos clameurs joyeuses qui auront, j'espère, ranimé le courage des plus isolés, des plus abandonnés, des plus humiliés, qui ont en vous la force et la puissance de tenir la tête droite.
Un parti de 120 000 adhérents. J'ai des meetings qui sont l'événement de cette campagne électorale, mais rendez-vous d'abord au second tour de la présidentielle. Mais je serai au second tour.
Je vais réfléchir pour que vous m'aidiez, peut-être pendant la journée, si vous avez un petit peu de temps. Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Et regardez, il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité.
Salut, donc on sort d'une interview à France Inter. Y a tous les candidats qui passent, ou les représentants des candidats et des candidates. Et là, on a fait 5 minutes et quelques secondes. C'est l'équité du temps de parole, l'équité renforcée, ce qui est évidemment le plus petit score de toutes les candidatures. Donc ça va très vite. Il y a quand même 3 journalistes en 5 minutes qui posent chacun des questions. Il faut se démerder là-dedans, donc si vous avez raté ces 5 minutes-là, en replay, ça vous prendra vraiment pas beaucoup de temps à revoir tout ça, mais on a essayé de répondre au mieux à des questions de ce qui était notre campagne, en fait, hein, le sens de notre campagne, et puis les perspectives politiques dans la suite, voilà.
Je crois qu'aujourd'hui, il faut convaincre, et il faut surtout que les Français ne se laissent pas voler cette élection comme ça a été le cas en 2017. Le vrai programme de droite, celui qui remettra de l'ordre dans la rue, celui qui remettra de l'ordre à nos frontières, celui qui revalorisera le travail, qui fera les réformes, qui résoudra les problèmes des déficits, de la dette, du pouvoir d'achat, c'est le mien. Et aujourd'hui, il y a une espèce de confusion parce que il y a la guerre en Ukraine, parce que Emmanuel Macron fuit le débat, parce qu'il se dérobe, parce que son bilan, finalement, c'est son boulet, il ne veut pas l'affronter. Et donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment venir projet contre projet, débattre et convaincre.
C'est ça ce qui fait la force d'une nation, sa fraternité, malgré les silences, malgré les impossibles, malgré les impensés. Je suis confiant. Il y aura encore des moments où on trébuchera, il y aura immanquablement des moments d'énervement, il y aura des sentiments d'injustice encore, mais nous y arriverons. Merci à toutes et tous. Vive la République et vive la France.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je le savais, le cœur a ses failles.
Avec SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Lola Clavel avec nous dans l'émission. Lola Clavel va nous parler de mode puisqu'elle a son propre label. Bonjour Lola.
Bonjour, merci de m'accueillir sur votre émission.
Ben, y a aucun problème, ça fait plaisir. On va parler de mode, ça fait toujours plaisir de parler de mode. Parlez-nous un petit peu de vous, parce que vous avez créé votre propre label. Dites-nous un peu comment tout ça a commencé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une réaction au lockdown. C'était avant justement tous les déboires qu'on a pu avoir l'année dernière.
Oui, ben moi, ça fait maintenant 4 ans que je suis en Australie. Et donc, j'ai commencé à proposer des vêtements sur mesure à mes clients. Et là, j'ai développé aussi une collection que j'ai sortie en janvier.
L'importance du sur-mesure pour vous, parce que c'est, on le voit hein, sur votre site, c'est en avant, c'est le tout ce qui est le bespoke clothing. C'était important pour vous de commencer comme ça, de pas forcément avoir votre propre collection. C'était important de d'écouter un peu ce que les gens pouvaient avoir besoin, ou c'était simplement une réponse par rapport à ce que vous saviez faire.
Non, pour moi, c'est une relation assez importante avec les clients aussi, de proposer vraiment un service sur-mesure. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la couture et haute couture qui est quand même dans le sur-mesure très intéressant, plutôt que quelque chose de plus fast fashion qui est moins sensible à l'écologie, par exemple. Puisque là, on va vraiment faire une pièce pour vos besoins dans la mesure où ça sera pour un événement spécial de votre vie ou... quelque chose une pièce que vous désirez vraiment dans votre garde-robe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui continue de me plaire, bien sûr. Et ensuite, j'avais aussi, moi, aussi envie d'apporter quelque chose à ma clientèle qui est plus mes créations et pourquoi pas les inspirer à demander quelque chose aussi de sur-mesure, peut-être changer une couleur ou une forme à partir de cette collection.
Alors, c'est important ce que vous touchez sur le fait de la fast fashion. Ça a été quand même beaucoup dans l'actualité ces derniers temps sur le rapport entre la mode et l'impact que ça a sur la planète. Pour vous, ça a l'air d'être important quand même, ça aussi, de pouvoir éviter de tomber dans ces tumultes.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est quelque chose que, voilà, qui est très à la mode aujourd'hui, on va dire, comme thème abordé. Mais c'est surtout pourquoi continuer de faire de la fast fashion et des labels donc, qui produisent en grande quantité quand on peut vraiment proposer aux gens quelque chose de sur mesure. Bien sûr, peut-être qu'il faut investir un tout petit peu plus d'argent, mais au final, ce ne sont pas des vêtements faits par des gens qu'on ne connaît pas. Ce sont des pièces où vous rencontrez vraiment la personne qui va vous faire le vêtement. Donc pour moi, c'est quand même un côté... qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, mais si on veut aussi faire travailler les gens dans nos pays, dans notre pays.
Et pour vous, l'Australie, justement, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que l'Australie, c'est une économie qui est... c'est un grand pays, mais qui a une économie qui est peut-être petite, mais le but pour vous, il n'est pas là. Est-ce que dans des villes comme Melbourne, par exemple, est-ce qu'il y a un attrait pour cette mode un tout petit peu différente, cette mode très personnalisée?
Oui, je pense qu'il y a un réel intérêt à Melbourne. C'est peut-être une ville un tout petit peu plus culturelle qu'à Sydney, tournée un peu plus vers l'art et la mode. Ensuite, je pense que vraiment, c'est la sensibilité de chacun. C'est une démarche aussi personnelle de se faire quelque chose sur mesure. C'est quelque chose où on aura choisi le tissu, on va mettre de la valeur dans cette pièce, je pense. On va aussi se démarquer parce que c'est quelque chose quand même d'assez unique et que vous aurez choisi avec la personne qui va vous créer la pièce.
Et pour vous, vous avez un petit peu de allez, on va dire entre guillemets, French touch. Vous amenez ça quand même dans la touche de ce que vous pouvez créer, ou vous êtes 100% à l'écoute de vos clients? Mais j'ai vu que vous faisiez également des vêtements de scène. À quel point vos antécédents français, votre culture française joue dans vos créations?
Je pense que c'est plutôt un savoir-faire que j'apporte, puisque moi, j'ai été formée à l'Opéra de Paris et ensuite, j'ai aussi travaillé dans le cinéma et pour des marques françaises. Donc, tout le point de vue design, développement et technique, c'est quelque chose que je maîtrise quand même assez bien. J'essaie au maximum de conseiller les gens sur la qualité d'un tissu, sur les coupes, les différentes options qu'ils vont avoir. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, et ça, c'est la partie très intéressante, qui sont curieux de demander comment s'appelle telle coupe de vêtements et de savoir un peu plus des termes techniques sur la mode aussi. Ou qui viennent avec une idée très vague et de là, on part sur, on décortique un tout petit peu plus. Après, je propose aussi de faire des vêtements de scène. J'ai eu la chance de travailler sur deux projets en 2019 qui étaient l'Australia Day, où j'ai fait une tenue pour Ricky Lee. Et ensuite, on a travaillé sur sa tournée. Puis, j'ai aussi la chance d'avoir fait un costume pour Kate Miller-Aki pour l'Eurovision de 2019, mais les sélections australiennes.
D'accord, donc, parce qu'elle était connue, elle était connue pour, ce, pour sa mode, Kate. C'est clair que sur SBS, elle, a été aussi, elle est sortie du lot grâce à son style.
Oui, oui, oui. Elle a un côté un peu edgy, comme on dit. Oui, oui. Très, c'était vraiment un très beau projet de travailler avec sa production et elle. Oui.
D'accord. Pour vous, l'avenir, c'est quoi ? Vous voulez continuer dans ce chemin-là ? Vous voulez aussi créer des petites collections ? Pour vous, c'est quoi, en fait, 2021-2022 ?
Bon, pour moi, ça serait de continuer ce service de sur-mesure. J'ai déjà pas mal de clients, là, ce mois-ci. Mais aussi de continuer à développer mes propres créations. J'ai commencé à un peu plus collaborer avec des photographes de mode ou des personnes qui faisaient des éditoriaux de mode, donc à diffuser un peu plus mon travail dans des magazines. Donc voilà, ça serait vraiment de mener les deux en parallèle et de continuer cette boutique en ligne et aussi de proposer mes services plus personnalisés.
Et les réseaux sociaux dans tout ça ? Parce que ça semble que bon, ça marche plutôt pas trop mal sur Instagram. On parle beaucoup hein, des réseaux sociaux. Pour vous, c'est quoi ? Comment vous gérez justement les réseaux sociaux ?
Moi, j'essaie de poster ce que je fais un peu régulièrement, tous les jours, des petites stories, peut-être des tissus que je choisis ou des essayages. Récemment, sur Instagram, j'ai mis la collection qu'on a sortie du coup en janvier. Et aussi l'éditorial qu'on a fait avec une photographe française avec qui j'ai collaboré et qui est sortie sur un magazine qui s'appelle Pink Magazine, qui est un magazine basé à Sydney. Vous pouvez bien sûr aller jeter un œil. Voilà, donc pour moi, j'essaie au maximum de montrer ce que je fais pour mes clients et aussi mes collections plus personnelles.
D'accord, mais il faut rappeler, c'est pas de la fast fashion. Hein. C'est pas de la fast fashion.
Non, donc c'est sur commande. Donc pareil, si quelqu'un veut quelque chose, veut une pièce, on va lui demander sa taille et essayer au maximum, même s'il ne vient pas en essayage avec nous, de lui faire une pièce au plus proche de ses mesures.
D'accord. On peut vous trouver où, Lola ?
Sur mon site web, lolaclavel.com ou sur Instagram, lola.clavel.
Impeccable. On mettra tous les liens sur cette page. Merci, Lola.
Ben, merci beaucoup. Merci.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
Et toi, qu'est-ce que tu vois ?
Vous écoutez Ta Planète, la chanson chantée par le groupe Trio. Tout de suite sur SBS French, Thomas Mercier discute avec Emmanuel Goutelier de Holberton. Holberton, c'est une école pour les décodeurs où l'importance d'apprendre à coder.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émission. Interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Emmanuel Goutelier, bonjour. Alors, on va parler de vous aujourd'hui. Vous avez un métier aujourd'hui de consultant. Vous travaillez dans le domaine du conseil en digital. Et aujourd'hui, à Melbourne, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure qui est de créer une école pour les développeurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Tout à fait. En étant consultant, en ayant démarré la structure du cabinet OnePoint, consultant en transformation digitale il y a 3 ans sur Melbourne, avec un footprint australien et singapourien, je me suis rendu compte de la difficulté que l'on avait à recruter de jeunes ingénieurs informaticiens. Et donc cette école arrive à un moment où le marché est en forte demande de ces ingénieurs en développement software. Et l'école a pour but de former très rapidement et de mettre sur le marché des étudiants en 9 mois.
Merci Emmanuel. Alors en quoi ça consiste le métier de développeur informatique ? Quelle porte ça ouvre sur le marché du travail ?
Il y a eu un fameux article publié dans une revue américaine en 2011 qui a dit que le software allait manger le monde. Aujourd'hui, tout est software. Aujourd'hui, une voiture, ça n'est plus que du software. On peut regarder par exemple Tesla. Donc ce software, il est écrit par des informaticiens. Ce sont des artistes en fait du code. Ce sont des architectes. Ce sont des créatifs qui développent des lignes de code pour obtenir des objectifs bien particuliers, qu'ils soient dans la mobilité, qu'ils soient dans des solutions plus complexes avec beaucoup de transactions.
Si j'ai bien compris, cette formation que vous proposez aujourd'hui va permettre aux étudiants d'apprendre à écrire des lignes de code. Et ces lignes de code vont ensuite créer une action. Alors ça peut être par exemple la création d'une page de site internet. Alors derrière le moindre petit bouton, il y a des codes qui sont créés pour créer cette action, pour ce bouton-là exactement. Et le langage peut être différent et les actions et les besoins peuvent être différentes aussi. Alors ça peut être une page internet, ça peut être aussi l'automatisation d'une action. C'est bien ça, Emmanuel ?
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, dans la vie de tous les jours, vous utilisez du code sans le savoir. Du code lorsque vous utilisez votre interface mobile bancaire. Du code lorsque vous prenez une réservation d'un billet d'avion. Peut-être pas pour le moment, mais vous l'avez déjà fait. Tous les jours, en fait, vous êtes devant une interface qui s'appelle graphique. Et en fait, ces développeurs vont développer l'utilisation et l'animation de cette interface graphique en face de vous.
Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur cette école ? Vous n'êtes pas venu seul. Cette école, elle a été créée aux États-Unis, n'est-ce pas ?
Tout à fait. En fait, elle a été créée en 2016 par deux Français qui ont immigré de France, qui sont partis dans la Silicon Valley, à San Francisco, et qui ont très vite compris ce manque de formation que l'on a pour les ingénieurs informaticiens, notamment dans les pays anglo-saxons. Donc, ils ont créé une plateforme dite DedTech, Education Technology. Cette plateforme est maintenant déployée dans 29 campus à travers le monde, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique, Europe, et nous amenons cette plateforme Holberton en Australie. D'ailleurs, Holberton tient son nom de Betty Holberton, qui faisait partie d'une équipe de femmes dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a créé le premier ordinateur mondial aux États-Unis pour aider les équipes de balistique.
Alors, on parle souvent de reconversion, surtout avec la crise du Covid. On a envie de changer de métier, on a d'autres perspective. Et par exemple, demain, devenir développeur, est-ce que c'est quelque chose de possible pour tout le monde ? Est-ce que, par exemple, il y a une limite d'âge ?
Il n'y en a aucune. En fait, c'est la caractéristique majeure d'Holberton, c'est que pour rentrer sur Holberton, il faut avoir de la motivation et uniquement de la motivation. Donc c'est une école très inclusive qui permet à des jeunes et des moins jeunes de changer de carrière, de passer une carrière par exemple de Customer Support Agent, donc agent de support, à de l'informatique. En fait, toutes les personnes sont les bienvenues dans la mesure où elles peuvent démontrer leur motivation dans un cursus qui est extrêmement pragmatique et qui diffère beaucoup du mode éducatif traditionnel que l'on retrouve dans les universités.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une forte demande dans ce type de métier de développeur ?
La demande est énorme. Le monde du corporate en Australie a une demande tellement importante qu'elle ne peut pas être satisfaite aujourd'hui avec le pool existant d'ingénieurs software. Il est très difficile, en fait, de les recruter, à tel point que, de façon anecdotique, les salaires des ingénieurs software augmentent très rapidement sur les 12 derniers mois. On parlerait d'une augmentation de 20 à 30%. D'accord. Aujourd'hui, quand on regarde les données de LinkedIn, si vous êtes ingénieur software, vous avez deux fois plus de chances de trouver du travail qu'un avocat. Si vous êtes ingénieur software, vous avez trois fois plus de chances de trouver du travail que si vous êtes marketeur et quatre fois plus de chances de trouver du travail que si vous êtes comptable.
Alors l'Australie est un pays quand même qui est relativement bien placé dans le domaine du digital puisque beaucoup de startups sont nées ici en Australie et c'est des startups qui ne sont plus des startups, qui sont devenues des multinationales, qui rayonnent dans le monde entier. Est-ce qu'on peut parler éventuellement de que l'Australie et notamment Melbourne a ce côté un peu Silicon Valley ?
Melbourne a beaucoup attiré en fait les grands talents dans la tech. Nous avons par exemple des sociétés dites pure digital qui se sont développées très fortement sur Melbourne. Notre partenaire de lancement, c'est une société que vous connaissez tous qui s'appelle realestate.com, qui est ce qu'on appelle une des licornes australiennes, licorne en termes de valorisation, mais licorne en termes d'avancées technologiques et d'innovations technologiques. Oui, Melbourne compte beaucoup de grandes licornes technologiques et digitales, et donc le besoin est majeur.
Alors comment ça fonctionne concrètement ? On démarre une école, c'est quelque chose d'assez complexe. On doit trouver des partenaires, des élèves et des locaux. Comment vous avez procédé ?
Le marché est en telle tension aujourd'hui, la demande est tellement forte. Donc, juste en quelques mois, en moins de 3 mois, realestate.com est devenu notre partenaire de lancement. Nous avons également des grandes sociétés qui sont devenues nos partenaires et qui donnent des bourses. Nous avons aujourd'hui des bourses qui viennent de RSCV, que vous connaissez tous, j'imagine, des bourses qui viennent de SportsTech. Nous avons un partenaire qui s'appelle RISTech. Nous travaillons avec des banques. Aujourd'hui, toutes ces sociétés sont en demande. Donc, la question, effectivement, est d'atteindre, en fait, les étudiants, d'où d'ailleurs cette session à la radio, que j'apprécie beaucoup. Merci Thomas. Parce que si vous êtes étudiant, si vous avez de la motivation, si vous êtes intéressé par le digital, je pense que le modèle Holberton, avec une formation accélérée en 9 mois, est le modèle qui vous permettra de trouver un travail très rapidement compte tenu de la tension dont je viens de parler.
Je vous remercie beaucoup Emmanuel, et à très bientôt.
À très bientôt, j'espère, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
J'ai les armes que j'ai, des couleurs qui prennent l'eau, la faute à mon prénom.
Les larmes que j'ai, chantées par Noé Préchaud, toujours le même chanteur, mais une chanson différente cette fois. Il est 13h57, l'heure du rappel des titres. Le crash d'un avion dans le sud-ouest de la Chine, 132 personnes étaient à bord. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. 27e jour de la guerre en Ukraine et au moins 8 personnes sont décédées dans le bombardement d'un centre commercial dans la capitale, Kiev. La Russie affirme avoir attaqué ce bâtiment juste parce qu'il contenait des armes ukrainiennes et ne pas avoir voulu toucher de civils. En marge de cette guerre, l'Union européenne adopte sa nouvelle ligne de défense, plus de moyens, plus d'interventions et surtout plus de sanctions à l'égard de la Russie. En France, le décès d'Ivan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, a succombé après 3 semaines de coma à cause d'une agression en prison. Et enfin, la victoire de l'Américain Taylor Fritz en finale de l'Indian Wells, c'est du tennis, 6-3-7-6 contre l'Espagnol Rafael Nadal.
On arrive à la fin du programme en français. Merci Marianne de nous l'avoir présenté aujourd'hui.
Mais merci Christophe d'avoir été avec moi pendant une heure.
Ça marche. Eh bien, prochain rendez-vous avec le français sur SBS, c'est bien entendu jeudi à 13h, samedi et dimanche à 13h également. Et sur notre site internet sbs.com.u/French. Nous sommes également sur Facebook et sur Twitter. Voilà, merci Marianne, merci à tous. Bon après-midi à vous Marianne.
Merci Christophe, on se retrouve jeudi pour refaire le journal tous les deux.
Ça marche, c'est parti. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.